Pour vous raconter un petit peu une histoire de science et d'art, en fait, autour de ce thème, l'art reflet de la société. Donc c'était une idée, d'ailleurs, qui avait été lancée par les personnes de l'Université de tous les savoirs, de me faire plancher sur ce thème. Donc moi, je suis scientifique, hein, vous l'avez compris dans le sujet de ma thèse, je suis physicien et chimiste, et j'essaie d'utiliser des méthodes d'analyse pour comprendre l'histoire des œuvres d'art de manière générale. Et de là, on peut en tirer toute une série d'informations sur les savoirs technologiques, des savoirs scientifiques parfois, qui ont existé à certaines époques, de la préhistoire jusqu'à nos jours. Et de là, finalement, grâce à ces outils d'analyse qu'on utilise aujourd'hui pour comprendre l'histoire des œuvres, on arrive à tirer quelques informations sur la société. Et donc j'aimerais, la société de l'époque, comment l'artiste a finalement créé son œuvre à un moment donné, en interagissant avec les autres, en répondant aux besoins des autres. Et donc je vais vous raconter en fait 6 histoires pour essayer un petit peu d'illustrer différents de ces propos, donc couvrant une période relativement large avec des exemples complètement différents pour vous illustrer un petit peu ce que l'on peut faire en utilisant des sciences pour comprendre ces œuvres d'art. La première chose, c'est en fait l'art reflet de la société. Ben, les historiens, les philosophes, depuis très longtemps, se préoccupent en fait de l'existence de l'art, de son invention. Donc aujourd'hui, on s'en préoccupe. Il y a beaucoup de constats qui sont faits sur les différentes formes artistiques qui peuvent exister. Elles se multiplient, elles vont de plus en plus vite. Et notamment avec Internet, il y a des formats maintenant de création d'œuvres d'art qui sont devenus complètement différents de ce qui a pu exister auparavant. Et notamment toutes les performances faites par des artistes à un moment donné pour essayer de créer une œuvre. Nous, on va se placer dans une dimension temporelle beaucoup plus longue. Donc d'œuvres qui ont résisté au temps, qui ont résisté à des siècles ou à des millénaires. Et donc qui sont très liées à la matière. Et donc pour cela, ben finalement, quand on regarde l'histoire et la manière dont les historiens et les philosophes, comme je vous le disais, ont essayé de comprendre ces origines de l'art, on peut en tirer quelques constatations. Et notamment le fait que la technique, la transformation de la matière est, dans l'histoire certainement, la chose primordiale dans la création artistique. Donc transformation de la matière, c'est aussi d'une certaine manière nos sciences d'aujourd'hui, nos sciences physiques, chimiques, qui cherchent à transformer cette matière pour notre bien-être ou pour notre mal-être, comme on le veut, en fonction des circonstances, mais on est là-dedans. Et donc je vous mets un petit texte pour commencer, avec une illustration. Alors il y a quand même pas mal de lumière, j'espère que vous la voyez correctement. On en verra un petit détail dans un instant, d'une petite peinture d'un artiste anglais, de la jeune fille de Corinthe. Donc une peinture de la fin du XVIIIe siècle, mais qui se réfère en fait à un texte. Non, mais je crois que pour la lumière, vous inquiétez pas, c'est parce qu'on a aussi pas mal d'éclairage par rapport à la caméra. Oh, ça, je pense que c'est surtout ça. Enfin, si vous ne voyez rien, vous le dites. Et donc ce texte, ici, date du 1er siècle de notre ère, a été écrit par un scientifique, un naturaliste, Pline l'Ancien, qui a vécu donc dans les années 50 de notre ère, en fait, qui a vécu jusqu'à l'éruption du Vésuve, parce qu'en bon scientifique et naturaliste, quand il a entendu dire que du côté de Pompéi, il y avait le volcan du Vésuve qui s'était réveillé, il est parti voir et il est mort durant l'éruption. Et donc on a ce petit texte donc où il nous raconte la création de l'art et l'invention, bien entendu, qui est liée au grec, puisque tout ce qui est bien à cette époque-là est forcément grec. Et donc il nous dit que le potier, donc celui qui fabriquait des céramiques, hein, simplement, Butadès de Sicyone, découvrit le premier l'art de modeler des portraits en argile. Et c'est ça, pour lui, un des phénomènes clés. Cela se passait à Corinthe, donc en Grèce, et il dut son invention à sa fille, qui était amoureuse d'un jeune homme. Celui-ci, partant pour l'étranger, elle entoura d'une ligne l'ombre de son visage projeté sur le mur par la lumière d'une lanterne. Son père appliqua l'argile sur l'esquisse, en fit un relief qu'il mit à durcir au feu avec le reste de ses poteries, après l'avoir fait sécher. Et donc là, en fait, c'est une notion qui est assez intéressante et qui arrive à ce moment-là. C'est cette idée qu'on va passer d'une poterie qui est un objet utilitaire d'usage quotidien à une œuvre d'art sculptée, modelée avec de l'argile qu'on va également cuire. Donc c'est toutes ces notions de transformation et qui ne remontent pas à un temps si ancien pour lui. Il ne connaît pas les œuvres d'art beaucoup plus anciennes qui existent depuis la préhistoire, puisque les débuts de l'art, en fait, ne datent pas du tout de ces époques-là, de l'époque de Corinthe. Sur le petit détail suivant, vous verrez mieux, mais date, bien entendu, de la préhistoire. Les plus anciennes œuvres d'art que l'on connaît ont, enfin, ça dépend de la définition que l'on donne, mais ont au moins 100 000 ans. Par exemple, il y a 100 000 ans, on a des objets qui ont été peints volontairement et portés comme objets de parure. Donc là, vous avez cette jeune fille, un stylet qui grave dans l'argile. Son père applique la matière pour façonner ce visage. Et donc ensuite, la suite de la construction de l'art, la seconde étape va consister à employer des couleurs une par une. Et donc l'invention de la peinture va suivre ce modelage. C'est ça un petit peu ce constat à cette époque-là. Et de parsemer de traits la surface à l'intérieur des contours. et enfin de colorier ces silhouettes en utilisant des tessons d'argile broyée. Donc en fait, c'est les pigments qui vont apparaître. Et donc là, on est dans toute cette forme de créativité. On va voir ces matières apparaître et c'est nous, c'est ce qu'on cherche à comprendre en fait dans le laboratoire où je suis, donc le Centre de recherche et de restauration du Musée de France, donc qui est au Louvre. Du côté du pavillon de Flore, qui est cette tour du Louvre, côté Seine et Jardin des Tuileries. Et en fait, on a un grand laboratoire en souterrain. Je vous montrerai notamment un équipement un peu exceptionnel qu'on a au laboratoire, qui est un petit accélérateur de particules. Puis on a d'autres outils, un peu plus simples. En fait, on va utiliser toute une série de rayonnements pour essayer d'analyser ces œuvres d'art et pour essayer de faire une imagerie scientifique. Alors, cette imagerie scientifique est devenue extrêmement à la mode maintenant dans toutes les séries américaines policières, où notamment la capacité d'utiliser des ultraviolets est devenue quelque chose d'apparemment banal pour détecter des traces. Nous, c'est ce que l'on fait également. Et donc, on va soumettre les œuvres d'art à différents types de rayonnements. Donc, des rayonnements, ben, c'est des ondes électromagnétiques. Donc, vous êtes tous en ce qu'on m'a dit scientifique en terminale. Vous me dites s'il y en a d'autres qui ne sont pas scientifiques du tout. Mais je n'irai plus dans les détails sinon. Et donc, ben, on a ces rayonnements avec des fréquences ou avec des énergies qui sont extrêmement variables. Donc le spectre lumineux que l'on voit avec nos yeux, entouré par l'infrarouge et par les ultraviolets, qui vont nous permettre d'observer les œuvres d'art très différemment. Et puis après, quand on va vers les rayonnements qui ont encore plus d'énergie, vous avez les rayons X, puis les rayons gamma. Et puis dans l'autre côté, vous avez d'autres types de rayonnements, alors qu'on n'utilise pas trop pour les œuvres d'art. Vous imaginez bien que les micro-ondes ne sont pas forcément la meilleure manière de conserver un tableau. Donc voilà, je vous ai dit, on va raconter 6 histoires. Donc 6 histoires avec des petits slogans à chaque fois pour un petit peu voir cet aspect, cette corrélation entre la société et certaines formes. Donc la première, c'est de la sous-traitance dans l'atelier. C'est finalement, qu'est-ce que c'est qu'un atelier d'artiste? Alors, dans l'histoire de Pline l'Ancien, l'atelier d'artiste, c'était la maison du potier. Et cette maison du potier avec son mur extérieur, où l'amoureux de la jeune fille est endormi et qui va servir de support à la création. Mais très vite, quand les formes d'art se complexifient, quand le savoir des artistes augmente, on va avoir des choses de plus en plus compliquées. Et donc si on s'intéresse par exemple au 15e, 16e siècle, dans les régions du nord de la France et des Flandres, ou de la Wallonie, ben, on a des peintures, par exemple, je ne sais pas si je passe un peu plus de l'autre côté, pour ne pas vous cacher déjà le tableau. Donc là c'est un petit tableau représentant une scène assez classique de cette peinture des Flandres, donc on voit très bien, qui est très bien conservé. Si on le regarde avec des infrarouges, on va le voir apparaître complètement différemment, et on va en fait, grâce à ces infrarouges, réussir à traverser la couche de peinture, parce que les infrarouges qu'on utilise, qui ont une longueur d'onde de l'ordre de 1 micromètre, entre 1 et 1,5 micromètre, traversent quasiment tous les pigments, presque tous. Quelques-uns sont opaques. En fait, il y en a un qui est très opaque, c'est le noir de carbone. Et donc en éclairant avec des infrarouges ce tableau, on fait disparaître nos pigments, donc on fait disparaître la couleur. Mais qu'est-ce qu'on voit apparaître en dessous? On voit apparaître en dessous un dessin qui a été fait au noir de carbone par l'artiste avant de réaliser son œuvre. Donc là, vous devinez peut-être un petit peu les traits de ce dessin. Sur l'image suivante, vous verrez, en fait, beaucoup plus en détail, la manière dont il a représenté la manche, les hachures, par exemple ici, sur ce vêtement, représentant les jeux d'ombre et de lumière avant de réaliser la peinture. Et puis également, vous verrez quelques autres petites inscriptions. Vous devinerez qu'on n'arrive pas forcément bien à lire ici, et puis moi je ne sais pas lire les noms ici, qui sont des noms, en fait, des couleurs qui vont être appliquées. Et donc en fait, on a un dessin qui a été fait par cet artiste avant de réaliser la peinture, qui contient tous les détails de la réalisation. Une sorte de manuel pour pouvoir réaliser le tableau. Alors on peut se dire, mais pourquoi est-ce qu'il avait besoin de ça? Si le peignait lui-même, il n'avait pas besoin de faire tous ces détails. C'est parce qu'en fait, l'artiste ne peignait pas forcément le tableau lui-même, et que ça rentrait dans un travail d'atelier extrêmement complexe, et qu'il avait besoin de donner à ses apprentis, à ses aides, des informations sur la manière de réaliser les ombres et les lumières sur le tableau, d'où tous ces jeux, ici, de hachures. Et puis, il avait besoin aussi de travailler, de discuter éventuellement avec d'autres personnes, de changer la composition. Là, vous pourrez remarquer qu'on a 2 verres sur la table, que l'assiette ici, finale, qui est là, a une ombre ici, en fait, parce que l'artiste avait commencé par organiser sa table différemment. Et puis en mettant tous ses personnages, en mettant tous les éléments du décor, il s'est rendu compte qu'elle était peut-être trop peu large. Il a légèrement agrandi, et du coup il a pu bouger la position du verre. Et donc on arrive à trouver aussi le processus de création, et à trouver ce que nous on appelle des repentirs, donc des changements de composition qui existaient dans son œuvre. Pareil sur la main ici, on voit un doigt. Donc la main également a légèrement changé de position. Et donc là on est vraiment dans cette relation un petit peu d'atelier, qui est une notion par rapport à aujourd'hui qui est extrêmement intéressante. Aujourd'hui, on se préoccupe toujours de si une œuvre est vraie ou fausse. Ce tableau, par exemple, peut être attribué à un artiste, Bon, ici, c'est pas le cas, c'est une œuvre anonyme. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne l'a pas réalisée seul. Il l'a réalisée dans son atelier. Et en fait, pour toutes ces peintures des 15e, 16e siècle, de la Renaissance, aussi bien en Italie que dans le nord de l'Europe, on a ce phénomène très important de travail de groupe. Le jeune artiste va venir apprendre à côté du grand maître, et puis l'artiste va avoir toute une série d'aides auprès de lui pour l'aider à la réalisation de ses œuvres. Et c'est des choses qui sont à prendre en compte quand on fait de telles études et dont on a toute une série d'informations. Par exemple ici, avec une œuvre italienne, cette fois-ci du milieu du XVIe siècle, de Giorgio Vasari, et qui représente en fait ici un personnage qui est Saint-Luc, que vous voyez ici avec une palette dans la main, un pinceau, en train de peindre en fait la Vierge. C'est une scène très très classique de l'art religieux, Saint-Luc peignant la Vierge. Mais ce qui est intéressant ici, c'est notamment que vous voyez derrière un élément clé de cet atelier, qui est le préparateur de pigments. Vous allez voir dans les détails suivants, en fait, différents éléments, notamment ce préparateur de pigments qui est en train de broyer les couleurs. Et on a d'autres éléments sur cette peinture, notamment la palette et le pinceau, un petit scalpel et puis également des petites coupelles qui devaient servir à graver, à gratter des pigments déposés. Ici, une autre palette, des pinceaux, un petit flacon tenant certainement un petit peu d'huile pour améliorer la texture de sa peinture et réussir à la réaliser. C'est un travail d'atelier, c'est un travail technique poussé avec toute une série d'ingrédients. Tellement important que les artistes, finalement, vont se passionner pour ça, et même dans ces scènes, comme Saint-Luc peignant la Vierge, se représenter avec tout leur attirail, finalement, et même leurs aides pour préparer les pigments. Donc ce travail d'atelier est vraiment primordial. Alors on peut décoder encore plus les choses, par exemple chez Léonard de Vinci, également avec un atelier. Et donc dans cette œuvre ici de Léonard de Vinci, la Sainte Anne, la Vierge et l'Enfant, ben, c'est une peinture faite sur bois, et si on la regarde en infrarouge, on va pouvoir voir le dessin de préparation également fait par Léonard de Vinci de cette œuvre. Mais là, juste vous montrer une autre pratique étonnante d'atelier. Là, vous avez le revers de la peinture, donc sous son support en bois. Vous voyez en fait qu'elle a été faite avec plusieurs planches qui ont été rassemblées. Et si on regarde ici, avec des infrarouges, de nouveau, on va voir apparaître quelque chose de ténu, que vous devinez peut-être, je vais vous le mettre en détail dans un instant. Là, c'est une tête de cheval. Là, c'est un demi-crâne humain. Et là, c'est une peinture équivalente à l'enfant Jésus avec un agneau. Là, on va la voir beaucoup mieux, je pense, ici. Voilà, vous voyez cette tête de cheval, vous voyez ce demi-crâne. En fait, dans l'atelier de Léonard, Léonard lui-même, peut-être un de ses élèves, ben, ils ont utilisé le revers de ce chef-d'œuvre de l'artiste comme carnet de croquis pour réaliser une œuvre. Donc là, les historiens de l'art discutent de ça. On a eu des réunions à ce sujet-là et les experts de Léonard de Vinci ont tendance à dire que c'est sans doute des œuvres de l'entourage de Léonard et pas du peintre lui-même qui fait des choses encore plus réalistes, avec notamment encore plus de vigueur dans la réalisation de ces têtes de chevaux, mais qui ne sont pas sans rappeler d'autres œuvres. J'ai l'impression que je vous cache un peu trop le décor, sinon je peux me décaler un peu par là. Je pense que ça ne dérangera pas la caméra. Voilà. Et donc, comme ça, je vous cacherai pas. Et vous voyez ici cette tête de cheval, en fait, qui fait énormément penser à une autre œuvre que Léonard réalisait à peu près à la même époque à Florence, qui était le décor d'une pièce majeure d'un des palais de Florence, avec une scène qui était la bataille d'Anghiari, où il représentait toute une série de guerriers en train de se battre, et notamment certains cavaliers sur des chevaux. Cette peinture a disparu parce que Léonard avait fait des erreurs techniques, donc très très vite elle s'est abîmée, elle a disparu, mais on a des croquis, on a toute une série d'informations, notamment ici, un dessin de Rubens d'après un dessin de Léonard qui représente exactement la même tête et nous montrant donc toute cette réflexion dans l'atelier entre l'artiste, son entourage, ses élèves, et donc en fait une pratique extrêmement complexe qui pouvait exister. Juste pour la plaisanterie, ces dessins ne seront jamais visibles puisqu'ils sont au revers de ce tableau, et donc pour l'instant on ne coupe pas les tableaux en deux, même si ces dessins sont extrêmement intéressants pour les historiens de l'art. Donc au laboratoire, on a développé toute une série d'outils pour aller plus loin, aller au-delà de cette image scientifique avec différentes radiations, comme je vous en ai parlé. Je vous redonnerai d'autres exemples d'imagerie scientifique tout à l'heure. Et notamment, on a développé un petit accélérateur de particules, alors qu'on appelle AGLAE. Donc AGLAE, c'est l'acronyme de Accélérateur Grand Louvre d'Analyse Élémentaire. Donc c'est une machine faite pour analyser la composition chimique des œuvres sans les prélever, qui a été installée maintenant, il y a 23 ans, bientôt 23 ans, au musée du Louvre, en souterrain. Et vous voyez en fait sur cette image qu'il y a un petit accélérateur de particules comme ça. C'est une machine de 25 mètres de long. L'accélérateur de particules, c'est la sorte de cuve à lait que vous avez ici, où en fait on va réussir à créer une tension de 2 millions de volts. Et une particule chargée, nous c'est un proton, noyau d'atome d'hydrogène, ou une particule alpha, un isotope de l'hélium, le noyau d'un isotope de l'hélium, vont, comme c'est chargé, subir une accélération. Donc si vous avez une particule chargée une fois qui voit une tension de 2 millions de volts, elle va subir une accélération vers une énergie qui sera de 2 millions d'électronvolts, donc qui est une grande énergie, pas très très grande, mais qui est la bonne énergie pour venir interagir avec la matière et créer des réactions. Donc tout au bout, en fait, on va transporter notre faisceau tout du long ici. Donc c'est des lignes de faisceau, une ligne de faisceau. On va manipuler notre faisceau pour l'extraire dans l'air au bout et analyser les œuvres. Donc par exemple, vous voyez là notre faisceau de protons ici, il sort par une toute petite feuille ici qui fait 1/10 de micromètre d'épaisseur. La machine est complètement sous vide. Et puis là, ça sort dans l'air, et puis voilà, en fait le faisceau interagit avec l'oxygène de l'air et fait une petite lumière bleue. Et nous, on va pouvoir mettre notre œuvre, par exemple ici, le scribe accroupi égyptien du musée du Louvre, et analyser ses constituants en quelques minutes. En fait, on fait près de 10 000 analyses par an avec cette machine sur les œuvres d'art. Et en fait, quelles sont les réactions qui se produisent? Ce sont vraiment des interactions entre nos particules. On va prendre par exemple notre proton et l'atome. Donc l'atome constitué de son noyau et d'électrons dans un modèle que vous connaissez je pense maintenant, d'électrons qui tournent, qui gravitent autour du noyau. Et donc on va pouvoir avoir nos particules qui arrachent certains de ces électrons, et on aura des recombinaisons dans l'atome qui produiront des rayons X. Et ces rayons X auront une énergie qui est caractéristique de l'atome qui a été, on dit, excité par la particule. Donc on va avoir des possibilités comme ça d'analyser la matière sans l'abîmer du tout, en quelques minutes, et donc on va pouvoir aussi avoir parfois des réactions avec les noyaux. Donc là, on aura collision de notre particule avec le noyau de l'atome, et puis on va avoir émission d'autres particules ou de rayons gamma qu'on va détecter. Et comme ça, on a tous nos éléments chimiques en quelques minutes, même les légers, même les lourds, se présentent en grande concentration, se présentent en faible concentration. Ça nous permet d'étudier différents cas, et donc là, je voudrais revenir sur une étude, une petite statuette découverte à Babylone. Donc Babylone, c'est en Irak aujourd'hui, cité mythique là aussi, et où des archéologues ont découvert toute une série d'objets, notamment des archéologues français au début du 19e siècle, et certains d'entre eux ont été ramenés en France et font partie du musée du Louvre. Et là, donc, si ça vient de loin, c'est mieux. C'est donc un constat babylonien donc, qui date d'à peu près 2000 ans, 2200 ans. Donc vous voyez cette petite statuette féminine ici, nue, voilà, où vous avez en fait des sortes, c'est une sorte de poupée avec des bras articulés, des bijoux, que vous voyez mieux ici, en or, et puis des incrustations rouges à la fois dans les yeux, et puis vous pouvez voir aussi dans le nombril. C'est un objet phare du musée du Louvre, hein, c'est un des plus beaux objets connus de Babylone, des antiquités orientales même de manière plus générale. Et donc la question qui se posait, c'est quelle est la composition de ces incrustations rouges? Parce qu'en fait, à ces époques-là, on ne sait pas très bien comment produire ou comment trouver des minéraux pour faire des incrustations de ce genre-là, et pourquoi est-ce qu'ils ont voulu mettre des yeux rouges à cette statuette féminine, peut-être de divinité. Donc ça peut être analysé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et donc on observe des analyses de rayons X, émission des rayons X, comme je vous l'ai dit, où on a, en fait, des données qui représentent ce genre de... représentées sous forme de graphique de spectre, c'est-à-dire qu'on va compter le nombre de rayons X qu'on a pour chaque énergie. Et ça vous donne des pics. Alors là, par exemple, vous avez un pic ici, où vous voyez l'oxygène. Là, vous avez un autre pic qui correspond à l'aluminium, et puis d'autres pics qui correspondent au titane, au vanadium, au chrome, au fer, au gallium. Toute une série d'éléments chimiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup d'aluminium et d'oxygène. Donc le composé, c'est un oxyde d'aluminium. Et puis on a des impuretés de titane, de vanadium, de chrome. Ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, un oxyde d'aluminium qui contient du chrome et qui est rouge, ben, il n'y en a qu'un seul qui est connu, c'est le rubis. Et donc notre matériau, c'est des rubis. Voilà, donc ça on le sait parce qu'on a des bases de données, parce qu'on a les informations géologiques claires autour de ça. Donc c'est des rubis, et les rubis viennent forcément d'un endroit rare, parce que c'est une pierre précieuse, donc elle n'existe pas partout sur Terre. Après on analyse nos trois incrustations rouges, le titane, le vanadium, le chrome, le fer et le gallium sont présents exactement dans les mêmes quantités. Donc ça c'est une sorte d'empreinte digitale, ça veut dire que ça vient du même endroit. Donc si ça vient du même endroit, d'où viennent ces rubis? Et donc là, on peut regarder les informations géologiques qui sont à notre disposition aujourd'hui. Les mines de rubis dans le monde sont toutes connues. Elles n'étaient pas toutes accessibles à cette époque-là aux gens de Babylone, hein, donc présents par ici. Celles d'Amérique du Sud, par exemple, il n'y avait pas de commerce. Donc on va chercher, en fait, toutes les régions asiatiques. Il n'y en a pas du tout en Europe, il n'y en a pas du tout dans le monde méditerranéen. Il n'y en a pas en Afrique, donc c'est dans ces régions asiatiques où on peut trouver des rubis. Et donc on va s'en procurer. Donc là, on se les fait prêter par des gémologues. Et puis on va pouvoir les analyser et de là faire des traitements statistiques. Alors là c'est un petit peu coupé, en fait c'est le chrome en fonction du fer par exemple, juste un diagramme, on représente la quantité de chrome en fonction du fer Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a du titane, du vanadium également, du gallium. On va regarder tous ces éléments chimiques. Et en fait, on va faire des groupements et voir qu'on arrive à distinguer les différentes sources. Et en fait, grâce à ce type de traitement, on a pu démontrer que ces rubis venaient de Birmanie. Donc de Birmanie, c'est-à-dire incroyablement loin, finalement, par rapport à notre localisation de Babylone. Il faut voir qu'on est là vers le deuxième siècle avant notre ère. Donc on est juste après la conquête d'un vaste monde par Alexandre le Grand, qui est parti de Macédoine, là, pour conquérir l'Égypte, conquérir toute cette région-là, en fait, qui est allé au fin fond de l'Afghanistan et qui s'est arrêté quand il est arrivé en Inde, repoussé en fait par les habitants d'Inde. Donc il n'a jamais été jusqu'en Birmanie. Donc ça veut dire des systèmes commerciaux, sans doute de proche en proche, qui ont peut-être pris des trajets complètement incroyables. Hein. On peut penser que ces rubis de Birmanie ont été échangés par les Chinois pour revenir par le nord jusqu'en Irak. On peut penser aussi que ces objets de Birmanie ont été échangés de proche en proche, le long de la mer, pour faire tout le tour de l'Inde, et puis revenir ensuite vers Babylone par l'Égypte. On peut penser ce genre de choses, on n'a pas encore la preuve de ces circuits commerciaux. On en aura des preuves économiques et archéologiques réelles quelques siècles plus tard, notamment à l'époque romaine, où de véritables circuits commerciaux s'instaureront, notamment avec les régions indiennes et avec Ceylan, parce que les Romains adoraient les épices, adoraient les parfums, adoraient les pierres précieuses, et donc allaient rechercher, éventuellement très loin, ce type de matériaux. On peut continuer sur la même époque en étudiant d'autres types de matériaux, notamment des peintures pour nouveaux riches. Une petite réflexion, c'est de se dire, finalement, Alexandre a fait cette conquête. On voit que des rubis commencent à s'échanger, et Alexandre n'a pas fait cette conquête tout seul. Il est parti avec toute une série de mercenaires qu'il a bien payés, qui sont devenus extrêmement riches. Il est mort jeune, sa conquête a été fulgurante, et après ces mercenaires ont arrêté de guerroyer, et beaucoup d'entre eux se sont installés dans la nouvelle ville créée par Alexandre le Grand, qui s'appelle toujours Alexandrie. Donc cette ville en Égypte, et qui est très connu dans l'Antiquité pour sa bibliothèque qui avait toutes les connaissances du monde, pour l'histoire de Cléopâtre, et puis pour son fameux phare dont on cherche la trace, qu'on retrouve plus ou moins la trace par des découvertes archéologiques. Mais donc tous ces mercenaires qui s'étaient enrichis en conquérant le monde de l'époque grâce à l'armée d'Alexandre, se sont installés là, et puis donc ont voulu, notamment pour leur caveau, à leur mort, avoir des peintures funéraires d'exception et se faire représenter sur des stèles funéraires. Et donc on a retrouvé, notamment l'archéologue français Jean-Yves Empereur, récemment, a retrouvé ces sépultures, ces sortes de catacombes enterrées, avec toute une série de pièces de ce genre-là, notamment, donc, c'est-à-dire des petits casiers qui étaient fermés par des stèles, et dans ces petits casiers, il y avait l'urne avec les cendres du défunt, puisqu'on était essentiellement dans des rituels d'incinération, donc où le corps était brûlé au moment de la mort. Et puis avec ça, donc ces stèles, dont certaines sont au musée du Louvre, que vous voyez ici. Vous la voyez, c'est pas très beau. Alors je vous disais que ces mercenaires ont dû vouloir ce qui se faisait mieux à l'époque en peinture pour les représenter. Donc c'est bien un mercenaire. Donc vous avez sa tête ici, son bras relevé vers le haut. En fait, il s'appuie sur une lance ici. Et après, si on regarde mieux, on arrive à distinguer un serviteur qui est devant lui et qui lui porte aussi des affaires. Donc sa tunique à cet endroit-là et puis une cape rouge que vous avez. Donc une position classique dans l'iconographie de cette époque-là. Et donc on a cherché à comprendre en fait quelle était la nature de la matière qui était utilisée. Donc comprendre, c'est toujours la même chose, comprendre comment ils ont réalisé ces œuvres et pourquoi elles sont endommagées, pourquoi elles paraissent si peu belles aujourd'hui, alors qu'elles devaient être des prouesses artistiques ou artisanales en tout cas, à cette époque-là. Donc on fait des prélèvements dans ces cas-là, comme les œuvres sont pas forcément majeures, on peut prélever toute une série de petits échantillons, vous voyez, donc des échantillons de couleurs différentes. On peut faire des analyses avec notre accélérateur de particules Aglaé. Donc par exemple, regarder toutes les traces de couleurs, même là où il n'y en a presque plus, là où il n'y en a plus suffisamment pour qu'on fasse un prélèvement. Donc c'est les ronds rouges que j'ai représentés là sur ce graphique. Donc en fait, il y a toute une série de couleurs qui sont présentes sur ce type de stèle. Et puis de là, on a toujours nos mêmes analyses d'émissions de rayons X, que je vous ai montré tout à l'heure. Et en fait, on voit qu'on a, en fonction des couleurs, des matières différentes. Par exemple, pour la tunique marron du personnage, on va avoir beaucoup de fer, parce que ce sont des oxydes de fer qui servent au marron. Pour faire une couleur bleue, on va avoir un composé de cuivre, etc. Et de là, on arrive à énoncer, à définir ce qu'est la palette de l'artiste qui a réalisé cette stèle. Quels sont tous les matériaux qu'il a pu employer. Bon, ça c'est la même chose. D'autres specs, j'avais oublié, pardon, avec des rayons gamma. Donc les rayons gamma, ils ont beaucoup plus d'énergie, ça fait des pics qui sont très fins sur ce diagramme, et donc on envoie par exemple de l'oxygène ici, on envoie du soufre. Donc comme ça, ça nous aide à notre analyse chimique de la matière. Et puis voilà ce qu'on trouve en fait. On va trouver l'utilisation de différents types de matériaux, de couleurs variées. En fait, ça, on est en présence d'un grand classique de toute l'histoire de la peinture, depuis la préhistoire. Les artistes utilisent différents types de pigments, et toujours à peu près les mêmes. Toujours notamment beaucoup d'oxyde de fer, parce que ça donne de très belles couleurs rouges, jaunes ou marron, notamment l'hématite, qui est rouge, ou la goethite, qui est jaune ou marron. Et puis après, ils vont utiliser d'autres types de matériaux un peu plus rares. Alors notamment là en bas, vous avez l'or piment, qui a un très beau jaune, qui est un composé d'arsenic, un sulfure d'arsenic. Puis vous avez le cinabre ici, qui est un autre composé rouge, qui lui est un sulfure de mercure. Donc ils ont l'avantage d'être beaucoup plus lumineux, beaucoup plus coloré que les oxydes de fer, et donc être plus luxueux, a priori, et d'ailleurs être plus rare et beaucoup plus cher. Puis à ces époques-là, ils savent aussi synthétiser des nouveaux pigments qu'ils n'ont pas dans la nature. Notamment pour faire le bleu, ici, ben ils fabriquent un pigment qu'on appelle le bleu égyptien, et qui est fabriqué en chauffant à haute température un mélange de différents ingrédients qui contiennent du cuivre et qui permettent de fabriquer ce très beau pigment. Et puis le blanc également va être un pigment blanc à base de plomb, qu'on appelle le blanc de plomb tout simplement, et qui lui aussi sera très important dans l'histoire de la peinture. Puis avec ça, on a trouvé et on a démontré l'existence d'autres types de minéraux. Et là vous avez des noms alors qui là sont beaucoup beaucoup plus surprenants pour nous. En fait, quand j'ai fait cette étude-là, c'était la première fois qu'on décrivait l'existence de ces pigments dans l'histoire de l'art. Personne ne les avait jamais vus auparavant. Et donc ces pigments ont des noms comme la célestine, la mimétite, la vanadinite. C'est des composés, donc vous voyez là un sulfate de strontium, la célestine est blanche, bon, ça fait un pigment blanc. La mimétite, c'est un arséniate de plomb, la vanadinite, c'est un vanadate de plomb, et c'est des matériaux qui ont des couleurs très vives pour les deux derniers. Donc un orangé très vif, un jaune très vif, donc des couleurs bien plus saturées, des couleurs qui... Je reprends. Donc des couleurs qui sont bien plus vives que ce qu'étaient les matières classiques de l'époque. Et ça c'est très très important parce que ça nous démontre justement cette volonté de ces mercenaires d'avoir quelque chose d'exceptionnel. Donc on va dire aujourd'hui un côté bling bling à ces peintures qui vont paraître bien plus brillantes, bien plus lumineuses que ce qui se faisait pour les autres. Sans doute ils ont dépensé beaucoup d'argent pour réaliser ce type de peinture. Parce que les matériaux sont rares, la mimétite et la vanadine, on a du mal à savoir d'où ça vient, peut-être d'Iran. Il y a des gisements là-bas qui existent. Donc encore une importation à longue distance pour avoir des matières d'exception. Et quand on réfléchit plus, donc on a réfléchi à ce que pouvait être la polychromie de ces stèles. Donc là vous avez une sorte de reconstitution, qui n'est pas une vraie reconstitution, on a recolorisé en fonction de nos informations, la cuirasse qui avait une couleur quasiment dorée, un fond qui devait être vert très lumineux, donc des jeux sur les couleurs qui n'étaient pas du tout les jeux habituels. Et là on revient sur ce reflet de la société, et on revient sur la considération que l'on avait à cette époque-là par rapport à ces œuvres d'art. Et donc on va repartir un tout petit peu après Alexandrie, hein, et l'époque d'Alexandre le Grand, donc à la fin du 4e siècle avant notre ère, disons vers 300 avant Jésus-Christ. Et là on a un autre texte, de nouveau latin, de Pétrone, dans un ouvrage qui s'appelle le Satyricon, et qui nous dit quelque chose qui est extrêmement contemporain également pour la première phrase, qui est la critique classique par rapport à l'innovation artistique. Tous les arts, comme si leur source commune avait été empoisonnée, meurent sans attendre les neiges de la vieillesse. Toujours on a cette critique que l'innovation va transformer les choses et ça deviendra moche ou ça deviendra moins adapté à ce que certains plus conservateurs souhaitent avoir. Et donc là, après, il précise bien ce qui a dû se passer à Alexandrie en Égypte. Il dit que la peinture n'est pas en meilleure posture depuis que les Égyptiens ont eu l'audace de réduire en recette un si grand art. Et là, il parle très très certainement de ce mouvement qui a existé pour ajouter toutes ces couleurs à cette époque-là. Ce n'était pas la tradition grecque qui ne jouait pas sur ces contrastes si forts de couleurs. C'était une tradition égyptienne et c'est certainement les artistes grecs éblouis par l'Égypte qui ont modifié l'art, et c'est une révolution majeure de l'histoire de l'art, et c'est ce qui va donner toutes les peintures de l'époque antique, notamment les peintures italiennes. Si vous allez à Pompéi, vous serez surpris des couleurs qui sont présentes et de la manière dont ils osaient juxtaposer des représentations de personnages sur des fonds rouges vifs, par exemple, dans un grand nombre de villas. Un autre aspect important de ce type d'étude scientifique, c'est de regarder les contrefaçons. Des contrefaçons qu'on va regarder à travers un petit exemple, qui est celui d'une tête en verre bleu de Toutankhamon, appartenant au musée du Louvre. Donc ce petit objet-là, c'est de nouveau un objet en train d'être analysé avec l'accélérateur Aglaé, est un objet en verre, qui a été acheté vers 1924-1925 par le musée du Louvre. Tête représentant sans doute Toutankhamon, donc le jeune pharaon, dont la tombe avait été découverte, je vais passer là-dessus sinon ça va être trop long, dont la tombe avait été découverte peu d'années avant. Donc en fait, en novembre 1922, vous avez cette incroyable découverte de la tombe de Toutankhamon, avec tous ces objets en or, avec les multiples sarcophages, une quantité de bijoux extraordinaires, et également toute une série d'objets façonnés dans du verre, parce qu'en fait, le verre a été inventé peu de temps auparavant. Le verre a été inventé un ou deux siècles auparavant, avant la mort de Toutankhamon, donc qui a vécu vers les années 1320-1350 avant notre ère. Et donc là, on a une petite tête en verre bleu qu'on va pouvoir analyser nous, pour essayer de comprendre si ça correspond bien aux recettes de fabrication des verres qui pouvaient exister à cette époque-là. Et donc pour ça, on va faire notre analyse chimique des différents constituants. Donc vous avez des longues listes ici, qui correspondent en fait au domaine de composition qui existait à l'époque égyptienne. Donc on a eu l'occasion d'analyser au laboratoire un grand nombre, plusieurs dizaines d'objets en verre égyptiens, parfaitement authentiques, dont on est sûr de l'origine archéologique, et on voit que ces objets ont toujours le même type de composition. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on fabrique du verre ? On fabrique du verre en fondant du sable avec des cendres végétales, en ajoutant un minéral, un composé métallique qui sert à faire la couleur, donc par exemple pour faire du bleu c'est du cobalt, et puis en rajoutant un composé qui sert à rendre le verre opaque, parce que c'est ça le type de verre qu'ils aiment à cette époque-là, et en Égypte c'est un composé d'antimoine et de calcium. Nous on analyse la petite tête égyptienne, mais en fait on n'a pas du tout la même chose. On a un verre qui utilise des cendres végétales, donc du quartz des cendres végétales bien sûr, mais le cobalt utilisé pour la couleur n'a pas les impuretés classiques qu'on a en Égypte, et l'opacifiant, pour opacifier ce verre, n'est pas un composé d'antimoine et de calcium, mais de plomb et d'arsenic. Donc en fait, ça veut dire que par une analyse chimique qui nous a pris 5 minutes, on est sûr que cet objet n'est pas égyptien. Donc c'était un faux. C'était un faux qui a été acheté par le musée du Louvre vers 1925, représentant Toutankhamon dont l'image a été découverte en 1922. Donc c'est un magnifique faux d'un faussaire qui n'a pas perdu de temps et qui a profité de l'engouement et de la folie Toutankhamon dans les années 1920 pour réaliser cet objet et le vendre au musée du Louvre, qu'il a gardé comme un de ses chefs-d'œuvre pendant un très très grand nombre d'années, avec un certain doute parce qu'il ne savait pas d'où il venait. On n'aime pas avoir des objets sans contexte archéologique. Et puis finalement, il y a quelques années, a accepté de vérifier si l'objet était bien authentique. Et ce type d'analyse chimique, maintenant, permet de révéler ces contrefaçons avec beaucoup de facilité. Même aspect sur ces techniques du verre. Cette fois-ci, on va regarder le travail des céramistes, notamment italiens, et les problèmes de fournisseurs, puisque c'est l'autre grand souci qu'ont les artistes. Donc ils vont aller chercher de très très loin des objets d'exception, mais quand ils veulent faire des productions importantes, c'est plus pareil. Et donc là, vous avez un cas d'un objet de la Renaissance, alors d'atelier de la Renaissance important qu'on appelle les Della Robbia. On a souvent dans les églises de ces sculptures avec des glaçures qui sont bleues et blanches, qu'on peut analyser. Donc là aussi, on a des outils de microscopie pour regarder comment sont faites ces glaçures et trouver leur composition. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus parce qu'il y a beaucoup de faux, il y a beaucoup de contrefaçons de ces objets en Della Robbia. Et en même temps, c'est des ateliers qui ont duré très très longtemps en Italie, au 15e et au 16e siècle, parce qu'il y a plusieurs générations d'artistes qui se sont succédés. Et donc on s'est intéressé au bleu, et toujours pareil, on fait nos études chimiques pour essayer de voir les relations entre les différents éléments. Et donc là, quand on regarde les quantités de cobalt et d'arsenic, on se rend compte qu'on arrive à distinguer des groupes différents d'objets, avec des domaines de composition qui ne sont pas les mêmes. Et en fait, ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'on se rend compte, en effectuant un grand nombre d'analyses de ce genre-là, que ces artistes ont changé d'approvisionnement en pigments, en bleu, en matière minérale pour faire le bleu, à un moment donné. Et avec des objets très très bien datés, en fait, on arrive à vérifier que c'est vers 1520 qu'ils vont changer de source. Alors là, c'est très pratique pour nous, parce que du coup, on arrive à savoir, quand on analyse une œuvre, si elle est des Della Robbia ou pas, si elle est d'avant 1520 ou d'après 1520, et donc d'attribuer avec une précision incomparable et de dater avec une précision incomparable ces œuvres, et donc d'apporter aux historiens beaucoup d'informations. Mon dernier exemple est un exemple on pourrait qualifier de vol aujourd'hui. Quand vous allez voir le personnage qui a fait ce vol, on ne qualifiera pas de vol parce qu'il a bien amélioré l'œuvre d'origine. Mais c'est aussi le même type de diagnostic scientifique pour essayer de comprendre le comportement d'un artiste d'exception. Donc là, c'est Picasso, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc Picasso, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, n'est pas fauché, mais a du mal à se procurer des matières premières, a du mal à avoir les pigments dont il a besoin pour réaliser ses peintures. Et donc il va aller s'installer dans le sud de la France pour être hébergé par un musée, par le musée d'Antibes, qui lui proposait de venir dans le musée pour créer des œuvres dans le musée lui-même, sur les murs du musée, et puis de réaliser quelques tableaux. Et donc il va aller chercher un petit peu tous les pigments disponibles à l'époque, y compris des pigments de bâtiment, de la peinture Ripollin classique, de façon à réaliser certaines œuvres. Et on a un grand nombre de chefs-d'œuvre d'ailleurs de cette époque-là. Donc on est entre le 17 septembre et le 10 novembre 1946. Donc une période extrêmement courte de la vie de Picasso, mais qui a produit beaucoup d'œuvres. Donc installé dans ce petit château, il a peint notamment cette peinture qu'on appelle le gobeur d'oursin. Donc vous voyez ce personnage avec dans la main ici un oursin, un autre à ses pieds. Donc nous, quand on va regarder ce tableau-là, on peut essayer de comprendre la nature des pigments, et puis on va essayer de comprendre aussi le processus de création. Pour cela, on va utiliser, comme on l'a fait au début, des rayonnements. Alors on pourrait utiliser l'infrarouge, mais il n'y a pas beaucoup de pigments à base de carbone. Ici, on utilise plutôt la radiographie. Et si on fait une radiographie de ce tableau, on ne voit plus le gobeur d'oursin. Donc ça a été une surprise. En fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit le portrait d'un personnage. Vous voyez ici la tête, vous devinez un costume. Vous voyez ici une décoration militaire importante. En fait, c'est le portrait d'un militaire dans un habit typique du 19e siècle. Portrait qui, en fait, quand on s'est renseigné un petit peu plus, avait disparu du musée d'Antibes. Le conservateur du musée d'Antibes avait perdu ce tableau, portrait d'un général, je ne sais plus son nom, du 19e siècle. Pourquoi, en fait, il l'avait perdu? Parce que Picasso l'avait volé, sans le dire, parce qu'il manquait de support. Il avait envie d'un support pour peindre cette peinture du gobeur d'oursin, et il est allé se servir. Donc là, on rentre un petit peu encore dans cette petite histoire, et cette façon de se comporter par moments de certains artistes. Et donc là, ça a été peint avec une peinture Ripollin, toute bête. Donc c'est un tableau donc d'un mètre trente de haut. Il a été peint, on le sait, parce qu'on a beaucoup de documentation sur Picasso, le 22 octobre 1946. Il a été peint dans un atelier dont on a une documentation bien meilleure que celle de Vasari, dont je vous montrais un tableau au tout début. Donc voilà l'artiste. Vous retrouvez ces petites fioles qui devaient contenir des huiles ou de l'essence, des solvants, ces pots de peinture Ripollin, ces pinceaux. Bon, là on n'a pas la palette. Et là derrière, vous avez le tableau du gobeur d'oursin ainsi que d'autres peintures autour, donc bien présents dans cet atelier au mois d'octobre-novembre 1946. Et on a même des textes, des plaintes de Picasso à cette époque-là. Donc j'ai toujours souhaité qu'on me donne de grandes surfaces à décorer et jamais l'État ne m'en a donné. Donc il se plaignait parce que justement il ne pouvait pas créer les chefs-d'œuvre qu'il voulait faire. Et puis des textes également du conservateur du musée d'Antibes, Dore de la Souchère, qui raconte comment il a installé Picasso dans une grande salle du second étage. Donc il a écrit tout ça. J'ai fait disposer tout ce dont il pouvait avoir besoin. Des chevalets, on l'a vu tout à l'heure, des tables, un matelas pour se reposer parce qu'il travaillait en fait très tard dans la nuit, des couleurs et des pinceaux. Et puis il a donné l'ordre à quelqu'un de s'attacher à lui, de le servir, de lui fournir tout ce dont il avait besoin pour son travail. Puis petite phrase encore, j'ai donné à Picasso la clé de la salle. Il l'a attaché à la ficelle de sa ceinture. En fait, il lui a donné les clés du musée, et Picasso les a gardées. Il venait chaque jour, donc en début d'après-midi, et il peignait souvent, jusque fort tard dans la soirée, à la lumière de deux énormes projecteurs. Il a composé avec les objets les plus hétéroclites, pris dans les salles ou la réserve du musée, un rassemblement dont le désordre lui plaisait et l'a souvent inspiré. Et en fait, il a y compris utilisé les tableaux qui existaient dans le musée pour réaliser d'autres œuvres. Et donc ça, on entrevoit ici également cette passion, cette volonté, parfois cette impulsion incroyablement forte qu'ont certains artistes pour la création et ce besoin de réaliser des œuvres d'art en grand nombre. Donc ça, on le connaît par exemple très très bien à la fin de la vie de Van Gogh, qui réalisait un nombre de tableaux absolument extraordinaires, qui a réalisé un nombre de tableaux extraordinaires à la fin de sa vie. Et puis donc Picasso, qui se plaignait d'avoir jamais des supports, ben donc le musée d'Antibes lui en a offert. Et notamment ici, vous avez sur des dalles de ciment dans le musée d'Antibes, une peinture qu'on appelle les clés d'Antibes, qui est extrêmement importante également ici. Et là, vous voyez de nouveau Picasso sur son matelas un soir, donc en train de se faire prendre en photo. Donc là, vous voyez un petit peu tout cet entourage et cette manière donc dont cet apport des analyses scientifiques peut aider à révéler certaines histoires, à raconter des histoires sur les œuvres d'art. Cette manière dont la science peut rentrer aujourd'hui dans l'art, c'est pas systématique. Les musées sont avant tout des musées d'histoire et d'histoire de l'art, et pas forcément des musées où la science rencontre en permanence. Mais grâce à ce type d'études, petit à petit, on essaye de décoder une vie mystérieuse. Une directrice du centre l'avait raconté comme ça il y a longtemps, une vie mystérieuse de ses chefs-d'œuvre, et d'essayer de raconter un petit peu comment, aujourd'hui, ils s'insèrent dans des préoccupations qu'ont les artistes, qu'ont les commanditaires des œuvres d'art, ou bien les préoccupations également que la société a par rapport à la création de toutes ces œuvres. Voilà, merci de votre attention.